Ouais. Caroline, est-ce que mes acétates fonctionnent pour... Oui? OK. Parce qu'on n'est pas dans les petits pétons. Éternel notre Dieu, on veut te remercier pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu nous as prêté la vie encore aujourd'hui, Seigneur. Tu soutiens toutes choses et selon ton bon désir, Seigneur, tu nous accordes d'être ici, Seigneur. D'être ici pour regarder cette histoire qui est houleuse, qui a des moments glorieux et des moments parfois pathétiques, Seigneur, où on attend de voir ta main intervenir pour secourir ton Église, Seigneur. Merci, Père, pour ceux qui nous ont précédés, qui ont combattu pour défendre la vérité. Merci, Seigneur, pour ta souveraineté. Je veux vraiment élever ce matin ta souveraineté. Tu es tout-puissant pour avoir préservé ton Évangile, Seigneur, à travers tous ces siècles, certains tellement difficiles. Je veux te bénir, Seigneur. Je demande de nous accompagner ce matin et de nous édifier à travers ce cours. De nous bénir ensemble en Église, dans nos relations interpersonnelles, Seigneur, qu'on puisse être une grâce les uns pour les autres, par une parole, par de l'écoute, par un mot d'encouragement, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, bienvenue, vous êtes dans le cours d'histoire de l'Église. On survole 650 ans ce matin, en 45 minutes. On va survoler 650 ans d'histoire, c'est bon? C'est ce qu'on appelle la période du bas Moyen Âge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste me dire un mot, deux mots, qui pour vous résume le Moyen Âge? À part des tours, des chevaliers, puis des dragons, il n'y avait pas de dragons, d'accord? Ça, c'est juste dans les films de Walt Disney. Mais le Moyen Âge, c'est quoi? Oui? Allez-y. Face aux autorités civiles? Oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que l'Église, l'Église, de plus en plus l'Église catholique, était en relation avec les autorités civiles. En fait, à la fin du bas Moyen Âge, c'est ça. Disons que l'Église va avoir autorité sur les autorités civiles. Le pape va se voir comme le souverain des souverains, le souverain des rois, le souverain de l'Église, le souverain de tout. En anglais, comment est-ce qu'on appelle ça Moyen Âge? Dark Ages, d'accord, qui est plus littéral. Les historiens décrivent cette période-là comme une période de noirceur pour différentes raisons. L'Empire romain est en train de se déconstruire, est en train de s'effondrer tranquillement, et donc les bénéfices qu'on avait vus du fait qu'il y a un empire organisé, structuré, avec des routes, de la sécurité, une direction, tout ça, c'est en train de se perdre pendant cette période-là. Le système féodal va s'installer, donc on va multiplier les petits seigneurs sur des territoires qui, eux, sont en guerre les uns avec les autres. Donc, ça ne facilite pas la circulation de la connaissance, de l'information, de l'instruction, du courrier. Si on fait une découverte dans un coin, ça va-tu se rendre à l'autre place? Est-ce qu'on a le luxe de se payer des... Est-ce que les seigneurs ont le luxe de se payer des savants qui font des recherches puis tout ça? Pas vraiment. C'est la période du Moyen Âge, d'accord? Et donc, pendant cette période-là, il y a moins d'événements historiques marquants qui se sont produits que, par exemple, dans la période qui précède, puis lorsqu'on va arriver avec la Renaissance, tout ça. D'accord? C'est une période où il y a beaucoup moins d'événements majeurs. Maintenant, ce qu'on va essayer d'adresser comme question par rapport à l'Église, parce qu'on veut apprendre de l'histoire de l'Église pour nous, c'est cette tension que nous avons. Est-ce que l'Église est appelée à se retirer du monde? Là, vous avez juste pensé à tout le système monastique, les monastères, d'accord? Est-ce que l'Église est appelée à se retirer du monde pour se protéger d'un monde qui est corrompu, où les gens sont pécheurs et n'ont pas décidé de marcher nécessairement avec Dieu? Ou est-ce que l'Église est appelée à faire la conquête du monde? Et on est en train de préparer tranquillement le terrain pour les croisades, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'Église est appelée à faire? Vous devinez que c'est un petit peu ni un ni l'autre, mais on va voir ça, puis on va essayer d'apprendre des leçons de cette période-là à cet égard-là. Donc, comme j'ai mentionné, 650 ans d'histoire, c'est une longue période. On va essayer de la résumer parce que son contenu n'est pas énorme. Lorsqu'on regarde le temps, on peut être surpris de voir qu'il y a des longues périodes. 650 ans, là, c'est énorme. Voir qu'il y a de longues périodes où Dieu ne semble pas être actif, d'accord? Dieu ne semble pas faire de grandes choses. Ce qui est faux, Dieu est toujours aussi présent dans les moments où il n'y a pas de grands événements que dans les moments où, dans notre quotidien, lorsque je suis en train de passer l'aspirateur, Dieu est encore là, Dieu est présent. Mais en même temps, si on pense aux Saintes Écritures, vite comme ça, là, les 11 premiers chapitres de la Bible couvrent plus longtemps, d'accord, en termes de temps, que tout le reste des Écritures. Juste pour donner une perspective de temps. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, on a une période de temps plus grande que du 12e chapitre jusqu'à la fin de l'Apocalypse. D'accord? Donc, dans cette période de temps-là, il s'est passé quoi pour qu'on ait juste 11 chapitres? D'accord? Lorsqu'on pense, par exemple, à la fin de l'Ancien Testament, puis la venue de Jésus, 400 ans. 400 ans de silence, qu'on dit, où Dieu n'est pas manifeste, Dieu ne nous donne pas un récit qui va être inspiré puis qu'on va garder. Donc, il y a 400 ans qui sont là. Les 30 premières années de la vie de Jésus, il a appris à se brosser les dents, puis à travailler le bois. Mais, Dieu n'a pas jugé que c'était important de nous rapporter ça. D'accord? Dieu n'a pas jugé que c'était important. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est en train de lire les révélations de Vasulariden. Vasulariden, c'est une mystique catholique qui supposément reçoit des révélations de la part de Jésus lui racontant toute son enfance. D'accord? Puis là, il est fasciné par ça. Non, dans les Saintes Écritures, Dieu n'a pas jugé important de mettre les 30 premières années de la vie de Jésus en détail. C'est vraiment son ministère qui est important. D'accord? Alors, ça fait juste nous rappeler que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour pour nous. Puis, il y a des moments où il intervient dans l'histoire de l'humanité de manière plus significative. Et on veut accepter ça. Dieu est souverain. De la même manière que ça fait comme 2000 ans qu'on attend que Jésus revienne. D'accord? Est-ce que ça veut dire que, il y a de quoi qui ne marche pas? Mais non, comme je vous dis, regardez le récit biblique, puis vous allez voir qu'il y a des périodes comme ça où Dieu dirige, les choses se font, mais les événements majeurs qu'on attend ne se sont pas produits encore. C'est bon? Alors, ce matin, comme j'ai mentionné, on couvre le bas Moyen-Âge. Il devrait vous rester des feuilles de notes dans les deux coins, à la hauteur de la console, là, sur les chaises, debout. Vous devriez pouvoir trouver des feuilles de notes. Et en principe, les cours sont tous sur le site web en audio avec les feuilles de notes d'élèves, d'accord? Alors, si vous manquez une semaine puis vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 650 ans, vous pourrez aller écouter ça rapidement. Pendant cette période-là, on va assister à la chute de Rome. On va assister à l'avènement de l'islam qui va venir déstabiliser davantage encore l'Empire romain. On va assister disons que la papauté va arriver au summum de son pouvoir et de sa puissance pendant cette période-là. C'est ça. Et puis pour les années, bien, je pense que je le mentionne, là, on va couvrir des années 400 à 1054, grosso modo. D'accord? L'Empire romain avait commencé à être déstabilisé par des invasions qui arrivaient du nord. Ça a commencé avec les Huns. Ceux qui avaient fait un peu d'histoire, vous avez entendu parler des Huns. Les Huns se sont déplacés du nord-est, ce qu'on considère comme l'Union soviétique, tout ça, même on peut se rendre jusqu'en Chine, et se sont déplacés vers l'Europe, et eux ont occasionné le déplacement d'autres peuples. Les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Goths, Visigoths, Ostrogoths, eux se sont déplacés vers l'Europe, d'accord? Et éventuellement, une partie d'entre eux sont descendus dans l'Empire romain et ont pénétré l'Empire romain. Alors, au départ, ces peuples-là se sont déplacés, ils sont venus s'intégrer dans l'Empire romain. Mais à un certain moment donné, ils représentaient des fortes proportions de la population, en sorte que s'ils n'étaient pas heureux, ils pouvaient décider de faire une révolte et puis déstabiliser certaines régions de l'Empire, voire l'Empire, d'accord? Alors, c'est pas une attaque frontale, ils sont pas arrivés puis ils ont envahi dans leur déplacement, Mais l'invasion des Huns les a amenés à se déplacer, puis ils sont venus s'intégrer progressivement à l'intérieur de l'Empire romain. Et le sac de Rome en 410, alors les Visigoths avaient pas mal intégré l'Empire, ils étaient un peu partout dans l'Empire, mais à un certain moment donné, insatisfaits de certaines conditions, tout ça, dirigés par leur chef Alaric, les Visigoths ont fait ce qu'on appelle le sac de Rome. Ils ont saccagé Rome. Ça a été 3 jours, si je me trompe pas, de saccage. Et ils étaient pas là pour renverser l'Empire, comme je l'ai dit. Mais c'était des tribus qui étaient barbares, et puis ils étaient pas contents, puis ils ont décidé de piller dans la ville de Rome. Et à ce moment-là, ça a vraiment ébranlé la confiance des Romains dans l'avenir de l'Empire romain. D'accord? Je l'avais mentionné, je crois, il y a 2 semaines. Ça a aussi ébranlé les chrétiens. Parce que les chrétiens croyaient, Jérôme, entre autres, croyait qu'il voyait cette conjonction. Lorsque Constantin s'est converti, on ne saura jamais vraiment, on saura au ciel, c'était une vraie conversion. Lorsque Constantin s'est converti, pour eux, ils voyaient la consommation du royaume. Vous savez, lorsque ce matin, on commence le livre des Actes dans la prédication, puis lorsque les disciples demandent à Jésus, « Jésus, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas venir établir le royaume d'Israël? » Pour l'Église, lorsque Constantin se convertit, plusieurs ont interprété ce moment-là comme l'établissement du royaume. On met les choses en place, puis Christ va revenir, c'est réglé. Le saccage de la ville de Rome par les Visigoths est venu ébranler ces convictions-là. Jérôme était déjà parti se retraiter à Bethléem, où il faisait beaucoup de travail de rédaction, tout ça. Mais il a écrit à ce moment-là, puis dans ses écrits, on voit qu'il était vraiment ébranlé. Non pas qu'il doutait de Dieu ou de l'existence de Dieu, mais il ne comprenait plus les desseins de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. J'ai mentionné il y a 2 semaines, à ce moment-là, Augustin, Saint Augustin, est-ce que vous vous rappelez quelle interprétation il a apporté, quelle compréhension il a apporté à la question du royaume? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Entre autres, un écrit de saint Augustin qui est majeur, pas ses confessions, ça c'est sa conversion. Quelqu'un qui se rappelle de ça? La cité de Dieu. D'accord? Alors Augustin a dit non, il y a quelque chose qu'on comprend là, avec ce qui est en train de se passer. Les chrétiens sont citoyens de la terre et citoyens des cieux. Nous sommes citoyens de 2 lieux. Et donc, nous n'avons pas à attendre ici-bas sur la terre que tout le royaume de Dieu s'installe. Nous attendons l'avènement du Seigneur, et jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous sommes citoyens des cieux et citoyens de la terre. La terre est dominée par le monde, par le péché, et nous, on est citoyens des cieux, et on doit vivre comme des pèlerins sur la terre. Donc, Augustin a clarifié ça pour l'Église. D'accord? À partir du moment où ça c'est devenu très clair dans la théologie, mais on peut se mettre à l'abri de croire que l'Église doit être associée avec l'État. La leçon va être bien retenue à partir de la réforme seulement, là. D'accord? Mais Augustin nous a aidé à comprendre. Si vous allez dans les enseignements de Jésus, vous pouvez penser à Jésus qui dit « Payez l'impôt à César » puis tout ça. Puis il n'est pas en train de dire « Il faut aller les renverser ». Il n'est pas en train de dire « Dieu va les juger, Dieu va frapper Rome ». Avez-vous entendu Jésus prononcer un jugement sur Rome? Pas une fois. C'est comme si c'est secondaire dans la perspective de Jésus. L'État fait son travail. Puis Paul va nous dire plus tard, c'est Dieu qui permet à l'État d'instaurer la loi, puis tout ça, puis d'exercer la justice. Notre travail à nous, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Et ça se passe dans les cœurs des individus qu'on gagne un à un. Saint Augustin, avec la chute de l'Empire de Rome qui est en train de se préparer, a ouvert cette compréhension-là, qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Ça va être bien compris beaucoup plus tard, des siècles plus tard, après la réforme. D'accord? Mais c'est Augustin qui a commencé à l'écrire. Et si on l'avait compris à ce moment-là, on aurait évité beaucoup de problèmes avec toute la papauté et tout ça qui voulait diriger l'État aussi. D'accord? Donc, on assiste à la chute progressive de l'Empire au 4e siècle, au 5e siècle, je m'excuse. Il y en a qui ont déjà entendu parler de Attila le Huns. Oui, Attila, est-ce que c'était comme quelqu'un avec qui tu aurais voulu prendre une marche? C'était-tu quelqu'un de sympathique? Hein, on l'a retenu son nom dans l'histoire, surtout pour sa cruauté. Mais en fait, plusieurs de ces peuples-là étaient très sensibles au christianisme, très ouverts. Et Attila s'en venait massacrer Rome. Et le pape a réussi à le convaincre de respecter Rome parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là. Et donc, Attila va renoncer à ce moment-là à venir prendre et massacrer Rome. Alors, ces peuples-là se sont éventuellement, progressivement, je vais le dire comme ça, là, christianisés. Parce qu'on est à une époque où c'est pas facile de dire conversion, christianiser, qu'est-ce qui se convertit. L'Évangile est souvent pas clair, souvent à l'intérieur d'une institution. Alors, il n'y a pas à douter que Dieu sauvait cette époque-là, mais de là à dire qu'on pouvait identifier une église où la doctrine était fondamentalement pure et droite, ça, c'était vraiment pas évident. Alors, mais il y a eu quand même beaucoup d'ouverture. Une partie de ces peuples-là ont adhéré au début à l'arianisme. Quelqu'un qui veut me rappeler c'est quoi l'arianisme? Oui? Alors, ne reconnaissent pas la divinité de Christ. D'accord? Cette question-là avait été traitée plus tôt, au 3e, 4e siècle, mais elle a continué à se répandre, même si l'Église l'avait rejetée. Cette doctrine-là a continué à se répandre et les peuples goths, ostrogoths, visigoths ont beaucoup adhéré au début à ça, puis progressivement ont abandonné cela complètement pour pouvoir davantage adhérer à la doctrine chrétienne, à l'enseignement chrétien. Alors, juste quelques noms, juste pour placer quelques noms dans votre mémoire. Puis moi, je vais vous encourager. Là, voyez ça comme une introduction, puis allez vous chercher le précis d'Histoire d'Église de Jules-Marcel Nicole. Il y a plein de témoignages, de citations. C'est très édifiant. Prenez le temps de lire ça tranquillement, éventuellement. Mais donc, dans cette période-là, on voit en Italie les Ostrogoths. On voit les Lombards aussi, qui en viennent à prendre le contrôle de l'Italie. Les Visigoths ont contrôlé essentiellement l'Espagne, la péninsule ibérique. Les Vandales, c'était un peuple, ont contrôlé le nord de l'Afrique. Les Angles et les Saxons, hein, les Anglo-Saxons, les Angles et les Saxons ont colonisé les îles britanniques. Et puis, qui a envahi la Gaule? C'est Astérix, mais oui, on sait. Les Francs! Les Francs, et la France tient son nom des Francs. Alors, le peuple des Francs, et celui qui a envahi la Gaule, qui est venu s'installer en Gaule. Et c'est un peuple qui va avoir énormément d'importance. Les îles britanniques restent en marge, souvent dans l'histoire, justement à cause de la Manche, parce qu'il y a un cours d'eau, tout ça. Mais les Francs vont jouer un rôle très important. On va le voir à travers le Moyen-Âge aussi, mais c'est le peuple qui va prendre le plus d'importance et qui va s'installer le plus solidement. Alors, eux autres envahissent la Gaule, prennent le contrôle de la grande partie, d'une grande partie de la Gaule et de la vallée du Rhin. C'était tous des tribus, la majorité d'entre elles, c'était des tribus germaniques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient soit païens dans leur croyance, soit ariens, et progressivement, ils ont adhéré à la foi chrétienne. Je ne sais pas si je peux dire ils sont devenus chrétiens, mais ils ont adhéré à la doctrine chrétienne, et sûrement que plusieurs d'entre eux sont devenus chrétiens. Oui, on a une photo intéressante. Pendant cette période-là, dans l'Est, l'empereur Justinien a pris le trône en 527 et pendant 38 ans, il a régné et il a réussi à installer toute la période byzantine. On a vu une renaissance de la période byzantine et il a construit une des plus vieilles églises qui reste debout, celle-là ici, Hagia Sophia à Istanbul. C'est énorme, il semble que c'est vraiment fantastique. Peut-être qu'un jour, je pourrais visiter ça. Et lorsque Justinien est entré à l'intérieur et qu'il a vu la beauté de... C'était lui qui avait commandé la construction de cette église-là, de cette cathédrale, il s'est exclamé, « Oh Salomon, je t'ai dépassé! » Intéressant, hein? Une belle humilité. Mais c'est ça. Alors, ça date de cette époque-là et ça existe encore aujourd'hui à Istanbul. Et ça, c'était l'Empire de l'Est, qui éventuellement va être davantage l'Église orthodoxe qui va être là, d'accord? Alors, l'islam naît dans cette période-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me résumer en une minute c'est quoi l'histoire de la naissance de l'islam? Je le répéterai pour le micro, juste pour vous réveiller un petit peu. Oui. En 631, juste un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. 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 Par les musulmans, oui. Oui. Alors, juste un petit peu avant, sur la naissance même, Mahomet, né en 571, d'accord? Il va décéder, je pense, en 633, d'accord? Et puis, Mahomet, c'était un homme qui était illettré. Il avait pas de... Lui-même le disait, là. Je suis pas en train d'offenser personne en disant ça. C'était un homme qui était illettré. Et à un certain moment donné dans sa vie, il va dire qu'il y a eu une apparition de l'ange Gabriel qui lui a donné des révélations, d'accord? Je vous encourage à un certain moment donné de prendre le temps d'aller chercher un Coran bibliothèque puis de commencer à lire ça, à feuilleter ça tranquillement. J'avais jamais lu personnellement, je suis en train de le lire, là. J'avais lu des extraits lorsque j'avais jasé avec des musulmans, tout ça, puis fait des recherches pour jaser avec eux, mais je ne l'avais pas lu au complet. Encore une fois, sans vouloir manquer de respect, disons que c'est pas comparable avec la Bible. Ça prend quelques pages, puis vous savez que vous êtes ailleurs, puis vous êtes dans quelque chose qui déforme beaucoup de récits. Mahomet était un homme qui était illettré. Il y avait un petit peu de culture chrétienne. Il est né dans un environnement qui avait été largement atteint par le christianisme. Et donc, il parle des Juifs, il parle des récits bibliques, il parle des chrétiens sans grande connaissance. Il raconte les histoires bibliques, c'est tout déformé. Puis tu vois qu'il manque des éléments super importants de l'histoire pour pouvoir le comprendre. C'est comme l'Arche de Noé dans le livre de Noé. Je ne suis pas rendu encore. OK? Mais il défait plein d'histoires. C'est toutes des petites sentences très courtes où il prend des bribes d'histoires, tout ça. Mais donc, Mahomet, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait réunir tous ces peuplades-là, qui étaient les peuples arabes, qui étaient très... C'était toutes des tribus, d'accord? Ils n'étaient pas unis ensemble et il voulait les unir ensemble. Il a essayé une première fois de se rendre à la Mecque et de prendre le contrôle de la Mecque avec les hommes qui avaient réussi à rassembler avec lui. Ça n'a pas fonctionné. Il a été chassé de la Mecque. Il s'est retiré à Médine. Et il va revenir quelque chose comme 30 ans plus tard. À Médine, il va réussir à rassembler beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciples. Et la conversion dans l'islam à cette époque-là, quoi qu'on en dise, se faisait au fil de l'épée, d'accord? Alors, on arrive dans un territoire, tu as l'option entre te convertir ou mourir. C'est tes deux options que tu as devant toi. Et ils vont en venir à élargir leur territoire pour, après ça, justement en 630, il réussit à reprendre le contrôle de la Mecque. Et là, ça va devenir vraiment l'endroit religieux par excellence de l'islam. Et à partir de ce moment-là, l'islam va prospérer en termes de nombre très, très rapidement. Lui-même décède en 632, d'accord, Mahomet. Mais il y a des gens qui sont autour de lui. Autour de son décès, après son décès, pendant une dizaine d'années, on commence à récolter les écrits. C'était des écrits sur des morceaux de terre cuite, des papyrus. On commence à rassembler ces choses-là pour pouvoir composer ce qu'on a qui s'appelle le Coran, d'accord. Et si jamais vous avez juste une toute petite parenthèse, si vous avez des discussions avec un musulman puis qui vous dit, regarde, parce que eux croient que la Bible, c'est pas la Bible qu'on a entre les mains, mais la Bible qui avait été donnée par Dieu, qu'on a plus, qu'on a perdu, selon eux, ils vont dire qu'on est tous la religion du livre. C'est les religions du livre, d'accord? Alors, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, ce sont les trois religions du livre. L'Ancien Testament, l'Injile, qui est les évangiles ou l'Évangile de Jésus, pas le reste des écrits. Ça fait partie aussi de la révélation de Dieu, puis ensuite de ça, le Coran. Alors, dans le Coran, à un certain moment donné, Mahomet dit que les Juifs ont déformé leurs écrits et que les chrétiens ont déformé leurs écrits. Alors, il dit qu'il faut les respecter, mais après ça, il dit, par contre, il y en a d'entre eux qui ont déformé leurs écrits, et donc leurs écrits ne sont plus fiables. Alors, quand vous parlez avec un musulman, pourquoi est-ce qu'on devrait se tourner vers le Coran? C'est parce que le Coran est la dernière des trois révélations, celle qui a été conservée pure, celle qui n'a pas été falsifiée, tout ça. Ça, c'est leur perspective du Coran. Malheureusement pour eux, il y a des morceaux de textes, soit dans le Coran ou à côté du Coran, qui nous disent que, par exemple, à un certain moment donné, il y a un des proches de Mahomet qui dit « Si telle bête n'était pas entrée dans la tente et n'avait pas volé tel parchemin, nous aurions toute la révélation divine. » Donc, ils sont en train, et ça, c'est ce que j'avais discuté avec Mohammed, un jeune homme musulman. Et puis, Et leur réponse, c'est toujours, c'est parce que tu lis dans une traduction française un texte qui n'aurait jamais dû être traduit de l'arabe. Il faut que tu ailles lire dans l'arabe pour avoir le droit de dire que tu comprends le Coran. D'accord? Ça, c'est toujours la place l'argument sur lequel ils vont se rabattre. Mais le Coran reconnaît lui-même qu'il y a des erreurs. Et ceux autres ne vont pas le dire lorsque vous allez parler avec. Parce que lorsque nous, on a une discussion avec des musulmans, ils vont nous dire « Oui, mais il y a eu des erreurs de copistes dans la Bible. » On dit « Oui, oui, c'est vrai, il y a quelques erreurs de copistes. » On les identifie, on essaie de voir, parce qu'on a des milliers de parchemins, puis on essaie de comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé ici, tout ça. On croit que le texte inspiré, c'est le texte original. Puis on croit que Dieu, souverainement, l'a protégé de manière extraordinaire. Mais on prétend pas qu'il y a aucune erreur de copiste. Eux disent qu'il n'y a aucune erreur. D'accord? Et c'est vraiment ça leur argument. Mais lorsqu'on connaît les textes à citer dans le Coran, les sourates à citer, ben, oups, c'est pas tout à fait vrai, ça. Mais, comme je vous dis, c'est un pouvoir militaire. C'est un pouvoir énorme, très, très puissant. Comme Yves l'a mentionné, c'est le nord de l'Afrique. Éventuellement, ils vont traverser en Espagne. En français, on utilise le terme des Maures, M-A-U-R-E, pour désigner, d'accord, ces peuples-là. Oui. Oui. Il n'y avait pas de connaissance. De Gabriel pour que la révélation soit donnée. Mm-hmm. Oh oui. C'est ça, le récit miraculeux là, dans le récit de Mahomet, là, c'est une bonne précision, c'est que Gabriel inspirait mécaniquement Mahomet pour qu'il puisse écrire. D'accord? Quand on dit une inspiration mécanique, ça veut dire que j'ai pas besoin de savoir écrire, Dieu dirige ma main. Puis j'écris ce que Dieu dirige. Lorsqu'on étudie l'inspiration des Écritures, j'arrive à toi Yves, lorsqu'on étudie l'inspiration des Écritures, de la Bible, on croit pas dans une inspiration mécanique. Vous allez comprendre la nuance, là, même si vous avez peut-être l'impression que je coupe les cheveux en quatre. Là. Lorsque vous lisez les lettres de Paul, vous voyez la personnalité de Paul à travers son style d'écriture. Quand vous lisez les lettres de Jean, vous voyez très, très bien que c'est un autre gars qui a écrit. Les deux ont connu Jésus, c'est correct. Paul par une apparition, Jean en personne, Matthieu, Luc. Vous voyez la personnalité des écrivains par son style, par les mots qu'il va utiliser, par l'insistance sur certains éléments théologiques, tout ça. Et donc, nous croyons que Dieu a inspiré à travers une personne qui était consciente. Elle n'était pas en transe, c'était pas une inspiration mécanique, mais à travers sa personnalité, Dieu dirigeait pour que le texte soit inspiré. Dans le cas de Mahomet, il n'y avait pas besoin de savoir écrire pour écrire. D'accord? C'est une inspiration mécanique. Oui, Yves. Mm-hmm. Oui. Mais c'est sûr que, parce que vous entendez des récits de personnes qui se convertissent à l'islam, c'est très, très minoritaire, soit dit en passant. Là. C'est pas. Ils se multiplient parce qu'ils viennent de pays où les gens ont des enfants et ces gens-là sont en train de rentrer tranquillement en Occident et un peu partout. Mais les conversions à l'islam, c'est très, très minoritaire. Mais c'est vrai que c'est troublant. Puis on vit à une époque où les gens cherchent à adhérer à une expérience religieuse davantage qu'à une connaissance de Dieu. D'accord? Et si c'est ça que tu cherches, peut-être que le Coran peut t'offrir quelque chose. Maintenant, si tu lis la Bible attentivement, puis tu lis le Coran, tu prends le Coran, tu ranges le Coran, puis tu commences à lire la Bible. Parce que c'est, comme je vous dis, c'est des collages. C'est frappant. Là. Quand tu commences à lire, c'est des collages. Tu n'as pas de récit, tu n'as pas de structure. C'est très difficile de comprendre la beauté de la révélation divine là-dedans. OK. Il faut qu'on avance un petit peu. Alors, ça, c'était juste une mention par rapport à l'islam, parce que l'islam apparaît à cette époque-là. Comme je vous dis, on est dans le bas Moyen-Âge, et l'islam va rester, ça va faire partie de la donne dorénavant. Ils vont être là, ils ont une croissance très, très, très rapide. Ils donnent un sentiment de pouvoir extraordinaire à des tribus qui étaient éparpillées, qui étaient divisées. Tout ça sous le nom de « on est arabe ». Et donc, puisqu'on est arabe, on est frère, d'accord? On va se réunir autour d'un Dieu, d'un culte, Allah, à travers le Coran. Et donc, il y a cette unification de tous ces peuples. Et c'était ça la vision de Mahomet. La vision de Mahomet, c'est on va donner le pouvoir, enfin, une identité à des peuples qui sont tous divisés parce qu'on est tous frères et on est tous arabes. Et on va s'unir ensemble sous un Dieu. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire des grandes choses. D'accord? Il faut que j'avance, je ne resterai pas dans l'islam, je m'excuse. On avance avec le monachisme, les monastères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période-là nous permet de réfléchir dans, comme église, pour apprendre, nous permet de réfléchir sur la question, quel est notre rapport avec le monde? Quel est notre rapport avec la société où les chrétiens ne sont pas en train de diriger cette société? Et donc, les valeurs qui sont là ne sont pas des valeurs nécessairement chrétiennes. Quel est notre rapport avec le monde? Bien, durant cette période-là va apparaître tout le phénomène des monastères. Et donc, les monastères, fondamentalement, ce sont des gens qui ont décidé que la manière de vivre une communion intime avec Dieu, c'était de se retirer du monde, de se retirer de cette contamination que le monde peut nous apporter, d'accord? Et donc, leur première motivation, d'abord, c'était des gens qui faisaient généralement vœux de pauvreté. Alors, leur motivation, c'était pas de devenir riche, c'était pas de vivre dans des gros palaces, même si éventuellement les monastères sont devenus énormes souvent. Ce n'était pas ça, c'était vraiment tout simplement de dire, on va se retirer du monde puis on va aller vivre seul. Au début, les premiers moines, il y a eu différentes expériences qui ont été faites. Il y a eu les moines stylistes qu'on appelle parce qu'ils vivaient au sommet d'un stylet. Est-ce que vous savez c'est quoi un stylet? Ça peut être un crayon, c'est vrai, mais là c'était une colonne. C'était une colonne, d'accord? Laissez-moi juste retrouver le nom de ce monsieur-là qui a vécu 30 ans au sommet de son pilier. Siméon Stylite. Alors lui a vécu 30 ans au sommet d'un pilier. Il était au sommet d'un pilier, il y avait une plateforme, il était là, puis il vivait en contemplation avec Dieu, et avec des chaudières et des cordes, les pèlerins qui venaient lui apportaient de la nourriture et le consultaient pour recevoir des paroles de sagesse de la part de Dieu, pour lui poser des questions, remontaient les questions, examinaient ça, mettaient ça en prière, donnaient des réponses, recevaient de la nourriture, tout ça. Il a vécu 30 ans comme ça en isolement, afin d'être consacré à Dieu. D'accord? Ça, c'est, par exemple, un des phénomènes qu'on a vus. Dans cette période-là aussi, Bénédicte de Nursie a créé un premier monastère et c'est lui qui va rédiger aussi comment est-ce qu'on appelle ça? Je m'excuse. La règle de Saint-Benoît. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. Alors, Saint-Benoît de Nursie va créer le premier monastère et Saint-Benoît va écrire toute cette règle. Si je ne m'abuse, c'est lui qui va fonder le monastère de Monte Cassino. Je vais juste vérifier. Je ne vais pas vous induire en erreur. Oui, alors peut-être qu'on peut aller... Ça, c'est le monastère de Monte Cassino. J'imagine que ce n'était pas aussi énorme que ça à l'époque. D'accord? Mais on est au 6e siècle. Là. Alors, on est au 5e siècle. D'accord? 6e, 525, la fondation du monastère de Monte Cassino. Et donc, c'est lui qui va écrire les règles de Saint-Benoît. Juste avant, on a Saint-Benoît de Nursie. On a une peinture qui le représente un petit peu avant ça, s'il vous plaît. Oui, Saint-Benoît de Nursie. Et pour vous donner une idée, je vais vous lire, on peut aller un petit peu plus loin, j'ai un texte, je vais vous lire une partie de la règle, d'accord? Alors, ça va vous donner un peu une idée de l'atmosphère. Ces gens-là, au départ, vraiment l'intention, c'était de dire, on veut vivre une vie consacrée à Dieu. On va copier les textes bibliques, on va faire des prières. Ils faisaient du bien aussi dans la communauté où ils vivaient. Ils pouvaient aider les villageois. Éventuellement, les monastères ont servi à l'instruction des enfants. On envoyait les enfants, ils apprenaient, puis après, ils retournaient chez eux, comme l'école, d'accord? Alors, juste un extrait de cette loi-là, de cette règle de Saint-Benoît. « Chacun a un lit pour dormir. On donne aux frères ce qu'il faut pour la nuit selon leur genre de vie et comme l'abbé l'a décidé. » Autant que possible, tous dorment dans un même lieu. Quand ils sont trop nombreux, ils dorment par groupe de 10 ou 20 avec les anciens qui prennent soin d'eux. Dans ce dortoir, une lampe brûle toute la nuit jusqu'au matin. Les frères dorment habillés avec une ceinture ou une corde autour des reins quand ils sont couchés. Ils n'auront pas de couteau à leur côté pour ne pas se blesser en dormant. Quand même, tu sais. Canef Suisse n'était pas inventé encore. Ainsi, les moines sont toujours prêts. Et quand on donne le signal, ils se lèvent sans retard. Chacun se dépêche pour arriver le premier au service de Dieu, mais tout de même avec sérieux et calme. Puis c'est très pratique comme ça. Là. Toute la règle de Saint-Benoît. Et c'est pas mal la règle fondamentale qui a inspiré tous les autres modèles monastiques. D'accord? Ces gens-là se consacraient à la prière, au service, au travail. Ils avaient des vies de moines. Ils se levaient très tôt pour des prières, allaient déjeuner, allaient servir, s'occuper du jardin, travailler. On doit aux moines, on doit énormément au niveau de la préservation des textes bibliques. D'accord? Des monastères entiers qui se sont consacrés ou en partie à copier les textes bibliques avec une assiduité incroyable. Ça, on voit plus ça dans le cours sur les doctrines essentielles. D'accord? Mais on voit l'inspiration des Écritures et les méthodes de préservation des Écritures à cette époque-là. Alors, il y avait des règles simples du genre, lorsqu'un moine terminait de copier de faire sa copie, on savait que la lettre centrale devait être un Z, d'accord? Et donc, on comptait à partir de là pour trouver le milieu, on comptait à partir de là, et si c'était pas un Z, on déchirait ça, tu recommençais, d'accord? Tout simplement pour être sûr qu'il y avait aucune erreur qui s'est introduite. Et si on te remettait une copie, et qui avait été, c'était la seule copie qu'on avait, admettons, dans notre monastère de ce livre-là, bien à ce moment-là, si on notait une erreur, l'erreur n'était pas corrigée. Une note était ajoutée dans la marge, de peur que l'erreur soit la vérité. D'accord? Alors, on a plein de manuscrits où on a toutes ces notes-là à côté pour dire, ils n'ont pas modifié, mais selon eux, ils pensent que le moine s'est endormi sur sa plume, puis hop, ça a glissé. Puis, vous comprenez, ils copiaient, là, à la journée longue comme ça. Et donc, il y a toutes sortes de règles de travail qui s'étaient données pour préserver les textes, et on leur doit beaucoup à cet égard-là. On leur doit énormément même dans la préservation, puisque l'imprimerie n'existait pas. D'accord? Dans la préservation des Saintes Écritures. La règle prescrivait la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Ils n'avaient le droit à aucune propriété personnelle. Et puis, ils avaient un horaire de prière, d'adoration, d'études bibliques, de travail très, très sévère. Ils se réunissaient 8 fois par jour, généralement, pour la prière. 7 fois dans le jour, plus 1 fois à minuit. Et ils n'étaient pas debout à minuit, ils se couchaient très tôt, se levaient très tôt. Je vous ai lu un extrait de la loi de Saint-Benoît, de la règle de Saint-Benoît. OK. Quels sont les éléments positifs qu'on peut retenir justement de toute cette période-là avec les monastères? Bien, premièrement, c'était quand même des gens qui étaient centrés sur Christ. D'accord? Leur désir vraiment, c'était d'adorer Dieu, de servir Christ, de glorifier Christ. C'est pas des gens qui étaient à moitié dans une vie à moitié consacrée. Donc, dans leur vision, ils avaient une vision très consacrée. Parfois, vous allez trouver certains d'entre eux cités même dans des livres évangéliques. Bon, des fois, c'est douteux parce qu'il y a eu des mystiques à travers les monastères aussi qui vivaient des expériences, qui avaient des pseudo-révélations qui n'étaient pas conformes avec les Écritures, tout ça. Donc, on fait attention lorsqu'on les cite, mais ces gens-là étaient centrés vraiment sur Dieu et le désir de connaître Christ et d'être comme lui. Deuxièmement, ils avaient une vision missionnaire. Et donc, on a vu des moines qui partaient comme évangélistes et qui allaient évangéliser. Et ça se faisait pas au fil de l'épée. C'était des évangélistes qui allaient annoncer la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le patron de l'Irlande? Saint-Patrick. C'était un moine, d'accord, qui est allé évangéliser toute cette région de l'Irlande. Et encore aujourd'hui, il est connu, vous pourriez lire certains de ses écrits, vous trouveriez cela très édifiant. Je dis pas que vous seriez d'accord avec chacun des éléments qu'il croyait, mais il y a certains de ses écrits qui sont très édifiants. Et donc, Saint-Patrick avait cette vision missionnaire d'aller annoncer l'Évangile aux barbares et de les évangéliser, de leur faire connaître la parole de Dieu. Donc, on est en ligne avec ce que Paul faisait en allant annoncer l'Évangile. Par le fait qu'ils ont copié les Écritures, par le fait que c'était un endroit de savoir, hein, on est dans la Dark Ages, on est dans la période sombre du Moyen Âge, c'est un endroit de préservation du savoir aussi, unique. D'accord? Comme je vous dis, la société était très éclatée. Il n'y avait pas de sécurité centralisée. On n'est pas dans l'Empire romain qui fonctionne de manière organisée. Alors, les petits royaumes se construisent et se déconstruisent très rapidement. Mais les monastères demeurent et la connaissance qu'il y a là, les bibliothèques qui sont là, peuvent être préservées. Et donc, ils ont contribué à ça aussi. Ils avaient une vision de service envers la société. Alors, ils ne vivaient pas seulement qu'isolés. Là où ils étaient, ils avaient un impact sur la communauté. Ça, c'est des choses positives qu'on peut retenir de ce que les autres ont apporté. Évidemment, certains des problèmes, compréhension du salut. L'Évangile était pas clair et c'était vraiment souvent un évangile par les œuvres, un salut par les œuvres. Et donc, ils travaillaient très fort à gagner leur ciel. Le retrait du monde, c'est un problème majeur. La parole de Dieu nous dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais si on vit tous enfermés dans notre monastère, ils ne sont pas en relation avec nous. Donc ça, c'était un problème majeur. Et éventuellement, ces endroits-là, partout où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, ces endroits-là, éventuellement, sont devenus très corrompus. Parce que c'était des endroits stables économiquement, c'était des endroits où on travaillait, c'était des endroits où on pouvait accumuler des richesses. Personne n'en était propriétaire, mais le monastère l'était, lui. D'accord? Et éventuellement, ben, celui qui réussissait à diriger un monastère pouvait être très puissant, même si, en principe, il était propriétaire de rien. D'accord? Un petit peu, je fais un parallèle un peu boiteux, là, mais ce qu'on a vécu avec le système communiste, socialiste, personne n'est propriétaire de rien. Mais si tu es à la tête de tout ce que personne ne possède pas, puis c'est toi qui décides où ça s'en va en fin de semaine, tu n'as peut-être pas besoin d'être propriétaire pour être puissant puis être riche, dans le fond. T'sais? Fait que c'est pas à toi, mais c'est toi qui contrôle tout. Mais c'est un petit peu la même chose. La corruption est rentrée dans de nombreux monastères. Éventuellement, on a travaillé très fort. Les gens plus en moyen travaillaient à mettre en place des gens à la tête des monastères, à acheter des positions à la tête des monastères. Cette période-là, c'est aussi la période des conquêtes. Il va falloir que j'aille un petit peu plus vite sur cette période-là. Alors, c'est la période des conquêtes aussi, où, comme je le dis, il y avait des moines qui allaient avec une vision missionnaire, s'en allaient annoncer l'Évangile, mais en même temps, il y a beaucoup de conquêtes qui se font militaires, et donc il y a des alliances qui commencent à se faire à ce moment-là entre les chefs militaires, la papauté, et puis parfois même des moines qui vont travailler avec eux pour pouvoir atteindre certains peuples. La papauté arrive dans cette période-là au summum de son pouvoir avec Grégoire le Grand. D'accord? Retenez ce nom-là. Grégoire le Grand a été le pape probablement le plus puissant à travers l'histoire de la papauté. On parle des années 590 à 604. Pendant ces 14 années-là, la papauté était au summum de sa puissance. On est allé visiter au Musée de la civilisation à Québec, c'est ça? L'été dernier avec les enfants, puis il y avait la tiare, le chapeau d'un des papes, j'oublie c'est lequel, puis sur la tiare, il y a plusieurs couronnes. Et les couronnes qui sont sur la tiare du pape représentent ses champs d'autorité. D'accord? Et donc, vous lisez sur ça qu'il est le roi de l'Église, mais qu'il est aussi le roi des rois, et donc le roi de toute la terre. Et c'était la vision de la papauté. D'accord? L'Église catholique a perdu ça à travers la réforme, elle a perdu la possibilité de pouvoir imposer ça. Mais à cette époque-là, on est arrivé à un endroit où le pape bénissait le roi ou maudissait le roi, nommait le roi ou faisait tomber un roi. D'accord? Et donc, c'était leur vision, c'était comme ça qu'ils voyaient. D'où est-ce que l'Église catholique pouvait s'inspirer pour avoir une idée semblable? Ça, vous avez la réponse. On n'est pas dans l'histoire. C'est déformé, on s'entend, mais d'où ça vient? Oui, alors ça, c'était pour dire qu'il y avait un seul, d'accord? Yves? Pardon? OK, mais l'Ancien Testament, d'accord? Eux, ils voyaient une restauration d'une théocratie. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, la foi et la direction du pays en Israël, va main dans la main. D'accord? Et donc, tout le monde en Israël doit adorer l'Éternel. C'est ce qu'il voit. Il voit ça comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais au début du cours d'Augustin qui a compris la différence entre la cité de Dieu et la cité des hommes. Jusqu'au retour de Christ, nous, comme croyants, comme chrétiens, nous sommes citoyens de la terre, c'est vrai, mais nous sommes citoyens des cieux. Et nous n'avons pas à attendre et à espérer que le règne céleste s'installe avant le retour de Christ. C'était pas clair, ça, pour eux. D'accord? C'était pas clair. Ça va se clarifier après la réforme. Mais dans leur vue à eux, celui qui est chef de l'Église devrait avoir l'autorité suprême sur tous les chefs des hommes sur la terre. Et donc, c'était leur perspective. C'était ce qu'ils poursuivaient, d'accord? Avec tous les dangers et toute la corruption que cela peut entraîner, comme vous pouvez l'imaginer. Grégoire le Grand était quand même un homme très brillant, qui a aidé à préserver certaines choses au niveau de la théologie, qui a fait avancer la philosophie. C'était un excellent administrateur. Alors, il a permis à Rome d'accumuler des richesses énormes à cette époque-là, de consolider son pouvoir, tout ça. Et donc, ça a été une période où, après, les papes qui vont le suivre ne seront jamais aussi grands que lui, dans le sens politique du terme, aussi puissants que lui, mais vont pouvoir s'asseoir sur ce que lui a construit à cette époque-là. Il a écrit des commentaires bibliques énormément. Donc, comme je vous dis, au niveau de la théologie, là, c'était pas juste un monsieur qui était en train de régner dans son bureau puis qui était dans un pouvoir politique. Ces choses-là vont s'installer davantage. C'était un homme qui cherchait à connaître Dieu, écrit beaucoup de commentaires bibliques, Grégoire le Grand. S'il y avait une bonne doctrine, je voudrais pas dire n'importe quoi. La question, c'est est-ce qu'il y avait une bonne doctrine dans l'ensemble? C'est sûr que lorsqu'on est rendu à cette époque-là, la doctrine de la grâce est pas claire. D'accord? Ça, c'est certain. Il y a certaines des pratiques catholiques qui sont déjà installées en 600. D'autres vont venir plus tard. Toute la vision là, de l'Immaculée Conception de Marie, c'est des choses qui viennent plus tard. Donc, est-ce qu'il y avait une bonne doctrine dans l'ensemble? Il y a des éléments qui seraient corrects, puis il y a des éléments qui seraient faux. D'accord? Défendait la Trinité, ça c'était clair. Défendait l'inspiration des Écritures, ça c'était clair. Défendait le sacrifice de Christ pour notre salut, mais avec une confusion au niveau du salut par les œuvres qui doit venir compléter le sacrifice de Christ. Alors, c'est là qu'on commence à déraper. Puis évidemment, leur ecclésiologie. D'accord? Comme je vous dis, leur vision de l'Église, c'est que l'Église éventuellement doit régner sur tout, doit avoir autorité sur les rois. Ça va? Avec Grégoire le Grand, on va parler de la monarchie papale. D'accord? Alors, le pape est roi, le pape est le monarque de tous les monarques. Et c'est ça que vous trouvez sur la tiare du pape. Une des couronnes sur la tiare du pape dit que le pape est le monarque de tous les monarques. Et leur vision, c'était qu'ils étaient les successeurs de César, de l'empereur César. D'accord? Rome s'est converti, César régnait sur l'Empire, Rome s'est converti, le pape devient le successeur de César, le successeur de Pierre. Pouf, t'as les deux d'un coup. C'est bon? Successeur de César, successeur de Pierre. You got it. Pendant cette période-là, on va voir une certaine restauration de l'Empire. C'est plus l'Empire romain comme c'était à Rome. L'Empire est en train de se déplacer vers le nord, mais ce sont des rois francs qui vont se convertir, véritable nom, au christianisme, et qui vont être mis en place, reconnus par le pape. Alors, on a le roi Clovis, qui a prétendu au moins s'être converti à la foi chrétienne, et il était marié, on raconte, avec une chrétienne, et donc il a aidé à ce que le pape puisse avoir du pouvoir, mais on a un empire qui commence à s'installer avec Clovis. Ça va nous conduire jusqu'à Charlemagne. Il y en a qui connaissent Charlemagne? Ça vous dit quelque chose? D'accord, on s'en va vers Charlemagne, là. Alors, Clovis a eu une dynastie qui l'a suivi, donc des héritiers qui, éventuellement, ont perdu de plus en plus de pouvoir jusqu'à ce que Charles Martel, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Charles Martel. Charles Martel a donné beaucoup de victoires contre les musulmans, contre l'islam. Et donc, à ce moment-là, le pape a voulu reconnaître Charles Martel comme étant le roi de cet empire. Voyez-vous, c'est une époque où il y a beaucoup, beaucoup de politique, puis celui qui, le roi qui voudrait être le roi par-dessus tous les rois à l'intérieur d'un grand royaume, va s'arranger pour être reconnu par le pape. Et le pape va dire, est-ce que toi tu reconnais mon autorité suprême? Oui, je te reconnais, je te déclare empereur, d'accord? Et donc, ils vont marcher main dans la main. Il va toujours y avoir des tensions. Par définition, si t'es un roi, tu contrôles toutes les armées, ça te tente pas d'avoir un pape au-dessus de toi, d'accord? Mais si le pape se prononce contre toi, ça se peut que tu ne sois jamais empereur. Fait que peut-être que tu vas t'arranger pour que vous marchiez un petit peu main dans la main. Charles Martel a eu un fils, son fils Pépin. Je ne veux juste pas vous induire en erreur ici, je m'excuse. Alors, Pépin a aidé à faire beaucoup de conquêtes, des endroits où le pape voulait voir le christianisme venir prendre place. Et donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont réussi à faire tomber quelques derniers rois francs qui s'opposaient à l'Église catholique, entre autres un qui a un drôle de nom, il s'appelait Cédric le Stupide. Alors, c'était son nom, Cédric le Stupide a abdiqué devant Pépin et puis devant le pape. Et ils l'ont forcé à devenir moine, d'accord? Alors, c'était pas toujours par choix que tu devenais moine, et il s'est retiré dans un monastère. Le fils de Pépin, c'est Charlemagne, d'accord? Oui? C'est une bonne question, mais c'est les Francs, c'est la Gaule, d'accord? Alors, on s'est déplacé en Europe, ça c'est certain. Pépin. Où est-ce qu'il siégeait? Je pourrais pas dire. Mais l'Italie, puis après ça, la Gaule, ça veut dire la France. Donc, c'est vraiment l'Europe. Parce que l'islam, les musulmans, les Maures, M-A-U-R-E, dominent vraiment le nord de l'Afrique, rentrent en Espagne, par le Moyen-Orient, s'en viennent aussi vers le nord. Donc, on s'est déplacé beaucoup vers le nord, toute l'Angleterre, les îles britanniques, la France, mais bon, encore là, à ce moment-là, est-ce que les îles britanniques étaient sous l'autorité des Francs? J'en doute, là. C'est pas mal des éléments que je serais... Oui. C'est une bonne question. Avec une carte, on pourrait le voir assez vite. Le pape n'a pas toujours été à Rome. On va voir un petit peu plus tard qu'il y a des rois qui vont déplacer des papes à Avignon puis des choses comme ça. Mais ça, ça vient beaucoup plus tard. Mais oui, à cette époque-là, il était à Rome. Ça, c'est clair. D'accord? Oui, il me reste 5 minutes. Je pense qu'on va terminer des petits bouts la semaine prochaine. Oui. Oui. C'était des alliances. Oui. Alors, c'est des alliances qu'ils font politiques, d'accord? C'est pour ça que la doctrine de la séparation entre l'État et l'Église, qui va se clarifier après la réforme, est fondamentale. Puis, je vais vous donner un exemple des questions qu'on va se poser. Parce que l'idée, c'est que l'Église soit toujours libre de l'État. Et que l'État adopte n'importe quelle loi, le pire qu'ils peuvent faire, c'est nous persécuter ou nous mettre à mort. Mais on leur donnera jamais le pouvoir de, parce qu'ils nous ont donné certains droits, nous menacer de nous faire perdre ces droits-là, puis à ce moment-là, on pourrait commencer à suivre le politique. Et ça, c'est l'idée de la séparation entre l'État et l'Église. Ici, au Québec, je vous donne un exemple de question théologique pratique pour un gars comme moi. Ici, au Québec, les membres du clergé, moi, je fais partie du clergé, les membres du clergé, on a une exemption au niveau de l'impôt, d'accord, pour la valeur locative de ma maison. Quand je parle avec mon prof d'histoire, Michael Aiken, il dit, je pense, Yannick, que vous devriez renoncer à ça. Tous les pasteurs devraient renoncer à ça. Vous êtes trop dépendant de l'État. D'accord? Le prof d'histoire, lui, il connaît les leçons de l'histoire. Fait que pour lui, ça, c'est une question qui n'est pas sans importance. Pour moi aussi, c'est une question qui n'est pas sans importance. Ça fait une grosse différence sur ce qu'on mange, tu sais, ce qu'il y a sur la table. Mais ça, c'est est-ce que l'Église est assez séparée de l'État ou non? Alors, en France, par exemple, les pasteurs sont souvent des enseignants de religion. Et donc, beaucoup d'Églises dépendent que leur pasteur soit un prof de religion à l'école, du christianisme, on s'entend, mais son salaire repose sur ça. Fait que là, nous, on les regarde un petit peu de haut, puis on dit, vous êtes beaucoup trop dépendants de l'État en France. D'accord? Mais ça, c'est des questions qui étaient là. Et donc, puisque Rome voulait régner physiquement, politiquement, elle était énormément dépendante des pouvoirs civils et faisait des alliances avec un roi puis avec un autre. D'accord? Charlemagne qui a été le plus grand empereur de cette époque-là. Alors, Charlemagne se disait chrétien. Et il va vouloir diriger beaucoup aussi, et il va avoir des alliances très importantes avec l'Église catholique. On a presque terminé, mais je vais garder la fin pour la semaine prochaine parce que je dois expliquer un petit peu la séparation entre l'Église de l'Est et l'Église de l'Ouest avec l'Église grecque, d'accord? Il y a vraiment un schisme. Le schisme est consommé en 1054 entre l'Église grecque et l'Église catholique. Puis après ça, on va rentrer dans la période du Haut Moyen Âge. Je sais que c'est beaucoup d'informations là, que je vous envoie. Moi, je vous encourage peut-être des fois juste faire une petite recherche sur Internet pour des lignes historiques. des lignes historiques qui vont juste vous donner l'ordre des événements pour commencer à les placer, revoir. Ah ouais, on a parlé de ça dans le cours, placer ces trucs-là. Puis, honnêtement, je crois que tous les chrétiens devraient lire à un moment donné dans leur vie chrétienne le livre de Jules Marcel Nicole, le précis d'histoire de l'Église. C'est très édifiant. Il y a beaucoup, beaucoup de citations. Il fait des pauses biographiques où il rentre dans la vie de quelqu'un, explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. C'est très édifiant. Il y a des moments, c'est déstabilisant, là. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Mais après ça, tu vois comment est-ce que le Seigneur préserve l'Église et c'est très édifiant. D'accord? Ça s'appelle précis d'histoire de l'Église. On va terminer avec un mot de prière. Mais Père éternel, je veux encore une fois t'adorer parce que tu es souverain. Tu es souverain, Seigneur, et tu bâtis ton Église, Seigneur Jésus, d'une manière extraordinaire, envers et contre tous, à travers des moments d'opposition, des moments d'errance, des moments d'erreur de la part de ceux qui dirigent l'Église, des gens qui veulent récupérer l'Église comme un phénomène politique pour pouvoir diriger l'État ou des choses comme ça. Et tu règnes, Seigneur, tu préserves. Et on va le voir dans les siècles qui viennent, dans les prochaines semaines. On va voir ensemble toute cette grande période de la pré-réforme et de la réforme qui est absolument glorieuse. Et on va voir l'Évangile être libéré de ces carcans-là, Seigneur. Je veux t'adorer parce que j'ai confiance, Seigneur, dans ta puissance et ta souveraineté pour préserver et bâtir ton Église jusqu'à ton retour, Seigneur. Et en même temps, Seigneur Jésus, je veux dire Maranatha, j'attends ton retour, j'attends ce moment où l'Église va être libérée de toutes nos hommeries, de toutes nos erreurs, et qu'on va simplement, Seigneur, être dans ta présence et dans ta gloire. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.